9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Pandémie, nom féminin, épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire du monde entier. Ce mot, on pense ne l'avoir que trop entendu dans les médias depuis le début de l'année 2020 et de la pandémie de Covid-19. En bandeau sur les chaînes d'infos, en capitale à la une des journaux et des magazines. Mot qui semblait appartenir à une dystopie apocalyptique qui nous est devenue familier quotidien. La gestion de cette pandémie a entraîné également des milliers d'heures de débats enflammés sur la gestion sociale, la gestion sanitaire d'un phénomène nouveau. Mais ce phénomène est-il amené à se répéter? Et si oui, quelles en sont les origines? C'est important de le savoir pour pouvoir l'empêcher, le prévenir. Dans son nouveau documentaire, la réalisatrice Marie-Monique Robin, accompagnée de l'actrice Juliette Binoche, donne la parole à des scientifiques du monde entier qui étudient l'origine et la fabrique de nos pandémies. Oui, car pour eux, ces pandémies sont une fabrique et non pas une fatalité. Et c'est ce qui est passionnant dans ce documentaire. Bonjour Marie-Monique Robin.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, vous avez obtenu le prix Albert Londres, c'était en 95, réalisatrice reconnue, documentaire en lien avec l'environnement. Je vais citer Le Monde selon Monsanto ou Le Roundup face à ses juges. Vous présentez donc votre nouveau film La fabrique des pandémies, qui est à la base un livre. Doc diffusé ce dimanche à 20h45 sur Ushuaïa TV. Est-ce que vous avez commencé à fabriquer votre fabrique des pandémies au début du Covid, ou est-ce que c'était un sujet qui vous intéressait avant cela?
Alors moi, ça fait très longtemps que je travaille sur les liens entre l'environnement et la santé. Vous avez cité quelques films et quelques livres. Mais pour être très précise, fin janvier 2020, je tombe sur un article d'un collègue américain du New York Times. Le titre, c'était « We made the pandemics ». Nous avons fait la pandémie, nous, c'était les humains. Et je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et il y avait des scientifiques qui étaient cités. Et moi, j'ai fait mon boulot, quoi. J'ai tiré la pelote. D'un scientifique à l'autre, j'en ai interviewé une centaine, et j'en ai gardé 62 dans mon livre. Tout en écrivant mon scénario, parce que je fais toujours les deux en même temps. Mmh. Avec le confinement, c'était pas possible de voyager, donc le livre est d'abord sorti. Mais c'était bien, parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur les 14 principaux qui sont dans le film. Et de les rencontrer dans 7 pays, ce qui n'était pas évident, parce que voyager entre le printemps 2021 et le février 2022, vraiment, ce n'était pas évident. Mais on y est arrivé.
Et encore, vous n'avez pas tout dit, 7 pays répartis sur 4 continents.
Oui, tout à fait.
On découvre un métier dans votre documentaire, celui d'écologue de la santé, oui, ou chasseur de virus. C'est quoi ce métier?
Alors, l'écologue de la santé, c'est quelqu'un qui, alors il peut être biologiste, il peut être virologue, il peut être infectiologue, il peut avoir n'importe quelle discipline, mais en tout cas, en plus, lui, ce qu'il veut comprendre, c'est pourquoi il y a des virus qui n'embêtaient personne depuis la nuit des temps, qui d'un seul coup deviennent des dangers. Donc quelles sont les causes écologiques qui président à l'émergence de ces maladies infectieuses? On parle de maladies émergentes parce que c'est des maladies qui n'existaient pas avant, tout simplement. Voilà. Et donc, leur boulot, c'est ça, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que, au niveau de la forêt, par exemple, l'un des facteurs, c'est la déforestation, le climat, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, les conditions, elles sont réunies pour qu'émerge une maladie. Voilà. Et un chasseur de virus, eh bien, c'est quelqu'un qui passe son temps à traquer les virus, comme on voit dans le film, dans les chauves-souris, dans les rongeurs, pour faire une veille et identifier les virus qui potentiellement pourraient devenir un danger pour les humains. Mais les chasseurs de virus préfèrent dire qu'ils sont écologues de la santé.
Alors là, on parle de santé, je vais parler médias parce qu'on est une émission média. Vous êtes parti donc aux quatre coins du monde rencontrer ces scientifiques, ces lanceurs d'alerte. Vous avez emmené avec vous dans vos bagages l'actrice Juliette Binoche, dont on connaît l'engagement pour l'environnement. Quelle est la genèse de votre collaboration?
Alors moi, j'étais en train d'écrire mon bouquin, et puis mon scénario était prêt pour le film. Et au mois de juillet 2020, j'en reçois un coup de fil de Juliette, que je ne connaissais pas personnellement, et qui me dit « Je suis présidente d'un jury du Festival de l'environnement à Porquerolles. J'aimerais que vous soyez dedans, le jury. » Il y avait Charles Berling, etc. Et bon, aller à Porquerolles, c'est pas...
Il y a pire dans la vie, ouais.
Il y a pire, quoi. Donc, j'y vais, et on a vraiment sympathisé. Parce que d'abord, elle a une sensibilité à l'environnement vraiment très, très, très forte.
Elle était même venue dans cette émission pour parler de ceci et non pas pour parler de cinéma, justement. C'est assez rare pour être signalé.
Oui, mais vraiment. D'ailleurs, on le voit dans le film. C'est magnifique, quoi. Elle a plein d'émotions qu'elle transmet au public, et c'était un petit peu ça l'idée. Donc elle me dit « Oh ouais, c'est super ce que tu fais, je connais rien à la science », parce qu'elle est comme ça, Juliette, je connais rien à la science, et moi j'aimerais tellement comprendre, pour dire moins de bêtises, elle parle comme ça, hein. Ouais. Et je lui dis « Bah ouais, mais bon, t'es très prise, je vois pas trop comment je pourrais t'embarquer dans 7 pays, quatre coins du monde », et en fait elle s'est battue. Bon, au début j'étais un peu réticente en fait, hein. Et après je me suis dit « Tu sais, quand tu fais un film avec, il y a beaucoup de scientifiques, ça peut faire peur à des gens en se disant on va rien piper, on va rien comprendre. Et moi, mon but, c'est quand même de faire des films que tout le monde peut regarder, que tout le monde peut comprendre. Et ça, Juliette, elle joue ce rôle. C'est-à-dire que comme les scientifiques savent qu'elle n'y connaît rien, Il faut un énorme effort de pédagogie et ça marche, quoi.
Je l'ai dit, on est une émission média. Est-ce que le fait d'avoir Juliette Binoche au générique aide à vendre le film ensuite aux télés ?
Alors ça, c'est pas du tout gagné pour autant. Parce que, en fait...
Est-ce que Ushuaïa TV, vous aviez déjà un deal avec eux avant l'arrivée de Juliette Binoche dans le projet ?
Tout était bouclé.
D'accord.
Donc Ushuaïa, RTS en Suisse, la RTBF en Belgique, tout était bouclé. Ça n'a rien changé pour ça. En revanche, je pense que le film... je vais interpréter l'avant-première, dans des salles de cinéma, etc., pour annoncer la diffusion du film. Et ça intéresse les gens de savoir pourquoi elle est là, Juliette Binoche. Mais moi, tout était prêt, en fait, quand je la rencontre.
Alors, on en vient donc au sujet de ce documentaire, l'origine des pandémies dans le monde. Parmi les scientifiques que vous rencontrez, l'écologue de santé Rodolphe Gozlan, l'épidémiologiste Mathieu Lachère, ils organisent un séminaire en Guyane pour sensibiliser des professionnels de la santé aux maladies émergentes. Ils ont co-signé une étude qui sonnait l'alerte sur le risque d'une épidémie dans la région de Wuhan, deux mois, c'est là où c'est très important, deux mois avant le début du Covid dans cette région du monde. Ils répondent donc aux questions de Juliette Binoche, extrait.
On a identifié les facteurs d'émergence. Bien qu'on ait des maladies totalement différentes, elles ont des facteurs communs d'émergence.
Donc on a des cartes avec différentes informations sur la déforestation, le climat, les différentes maladies. On voit en regardant à travers le monde que quand on empile ça et ça, c'est les conditions d'émergence.
Alors concrètement, quelles zones à risque avez-vous identifiées ?
Il y avait deux régions qui sortaient du lot, on va dire, et qui étaient... l'est de la Chine, qui comprend Wuhan, et puis l'Ouganda, au niveau de l'équateur en Afrique de l'Est.
Donc vous voulez dire que vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 à Wuhan ?
Il y avait les conditions nécessaires pour que ce cocktail dangereux émerge.
Je ne sais pas si ça doit faire froid dans le dos ou au contraire être rassurant puisqu'on peut prévoir les épidémies si on les écoute.
Oui.
C'est peut-être une bonne nouvelle. Quels sont ces facteurs communs d'émergence aux pandémies dont parlent ces deux scientifiques, Marie-Monique Robin ?
Il y en a trois principaux. La déforestation, notamment dans les zones tropicales, les forêts primaires, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'animaux sauvages là-bas, il y a une grande faune.
Normal.
Donc il y a plein de micro-organismes, mais qui ne nous embêtent pas. Vous voyez, tant qu'on ne rentre pas dans ces espaces, ils ne sont pas du tout dangereux, on en a même besoin. Mais voilà. En tout cas, la déforestation, c'est clairement. Ensuite, l'élevage intensif qui sert de pont. C'est-à-dire qu'un virus de chauve-souris, ça passe pas à l'homme directement. Ça doit toujours passer par un animal intermédiaire qui est un pont. Hein. Et évidemment, quand c'est un élevage intensif avec des cochons, par exemple, qui sont tous identiques, eh bien, ça fait comme une bombe écologique. Donc, l'élevage intensif et troisièmement, la globalisation, évidemment. Parce que un virus qui sort d'une forêt, pour faire simple, asiatique, peut gagner l'autre bout du monde le temps d'un long courrier. Donc ça, ce sont ces trois facteurs qui sont vraiment bien identifiés. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce sont des dizaines d'études partout dans le monde, sur quatre continents, pour plein de maladies différentes, qui montrent que c'est toujours les mêmes facteurs. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs pu, en identifiant ces facteurs, en prenant des cartes et tout, se dire, attention, Wuhan, zone à risque, ou Ouganda, zone à risque, vous voyez. Donc, la bonne nouvelle, vous avez raison, c'est que si on peut identifier les causes, on peut anticiper.
On peut agir dessus.
Et puis on peut agir dessus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
On continue de parler de ce doc, La fabrique des pandémies. Marie-Monique Robin avec nous dans Culture Média sur Europe 1. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
On parle de La fabrique des pandémies, documentaire qui va passer dimanche à 20h45 sur Ushuaïa TV. Après avoir été un livre, les deux sont signés Marie-Monique Robin. Vous avez fait le tour du monde, 4 continents, 7 pays, des rencontres de scientifiques. Il y en a 13 ou 14 dans votre doc, il y en a plus d'une soixantaine dans le livre. On y apprend ce qu'on savait, mais avec des détails en plus évidemment, que pour que le virus passe de la nature à l'homme, il faut des vecteurs. Un animal dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler pendant l'épidémie de Covid, qu'on prend pour son grade, c'est la chauve-souris. On entend parler à l'évocation de quasiment chaque épidémie dans ce doc, La fabrique des pandémies. Par exemple, lorsque vous êtes au Gabon et que vous revenez sur l'origine du virus Ebola, vous entretenez, c'est lui qu'on va entendre, avec le virologue Gaël Maganga.
Ce qu'on sait aujourd'hui de l'origine du virus, c'est que les chauves-souris seraient les espèces animales réservoirs du virus. On pense que les singes sont les hôtes amplificateurs, donc chez lesquels le virus Ebola mute et se transmet à l'homme. Les grands singes se contamineraient via la consommation de fruits souillés par les urines ou les excréments de chauves-souris. Et les humains se contamineraient à partir de ces grands singes-là via la chasse, le dépeçage, la manipulation des carcasses de ces animaux-là.
Marie-Monique Roman, on comprend que la chauve-souris est devenue l'ennemi public numéro un. Il est beaucoup question de déforestation dans ce documentaire. Moi, je voyais les reportages, j'ai été touché évidemment, mais je n'aurais jamais pensé que la déforestation, c'est-à-dire couper un arbre qui fait 100 mètres de haut, affecte les micro-organismes. Racontez le lien, cette chaîne de vie.
Voilà, alors, la chauve-souris, quand même, c'est pas l'ennemi public, hein. C'est pas elle le problème, ce sont nous les humains, justement. Oui. Parce que quand on abat un arbre, on modifie totalement l'environnement. Alors, par exemple, si vous êtes dans une forêt tropicale, vous coupez l'arbre. Il y avait une petite rivière là, et bien tout va changer. C'est-à-dire que le soleil va rentrer, les oiseaux qui mangeaient les poissons carnivores, qui eux-mêmes mangeaient ensuite les petits crustacés qui étaient dans l'eau, eh bien, vont disparaître parce qu'il y a plus de visibilité. Donc, voilà. Et les petits crustacés vont donc proliférer parce qu'il n'y a plus l'intermédiaire du poisson carnivore. Et là, dans mon histoire, c'est embêtant parce que ces petits crustacés sont réservoirs d'une bactérie qui peut donner une sale maladie, qui est l'ulcère de Bourouli. Donc, on voit comment, quand on abat un arbre en forêt, pour faire simple, on peut provoquer une maladie à des milliers de kilomètres. C'est absolument fabuleux. C'est toute cette... Vous avez, ce sont des effets en cascade, en fait, et qu'on ne mesure pas assez. Et c'est pourquoi ce film est important, parce qu'on comprend véritablement que, vous voyez, la biodiversité, c'est pas un supplément d'âme pour bobo écolo à vélo, dont je fais partie, moi, ce que je fais, voilà. Mais c'est bien plus que ça. D'abord, c'est notre maison commune, on en a besoin pour vivre, on dépend d'elle, et puis quand on la perturbe trop, eh bien, c'est un effet boomerang, vous voyez. On déséquilibre tout, toute la chaîne du vivant, et ça devient dangereux pour nous.
Marie-Monique Robin, vous alertez sur les dangers de la déforestation, mais vous n'oubliez pas la raison sociale de ces pandémies. On est parlé, et avant la chauve-souris, il y a l'homme. Les populations pauvres qui ont besoin de l'agriculture ou de la chasse pour vivre, pour se nourrir. C'est le cas à Madagascar, où vous vous rendez avec Juliette Binoche. Là, vous rencontrez une spécialiste des lémuriens. Elle s'appelle Patricia Wright. Lémuriens mis en danger, encore une fois, par la déforestation.
Est-ce qu'on peut préserver les lémuriens sans s'attaquer à la pauvreté ?
Impossible. Les gens qui habitent autour de ce parc sont très pauvres. Ils ont besoin des arbres pour cuisiner. Ils détruisent la forêt pour planter des haricots ou du riz. Nous travaillons sur des alternatives en essayant de les aider pour la santé, l'éducation et leurs moyens de subsistance.
Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète. 80% des 27 millions d'habitants vivent, ou plutôt survivent, en zone rurale. Loin de tout. Ici, on se déplace à pied, au milieu des collines pelées. Chaque année, 100 000 hectares de forêt partent en fumée pour pratiquer l'agriculture sur brûlis ou faire du charbon.
En ce qui concerne l'écologie en France, on a beaucoup parlé à l'époque des gilets jaunes avec cette formule de la problématique entre la fin du monde et la fin du mois. C'est encore plus criant évidemment dans les pays pauvres, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu facile, nous place nous en tant qu'occidentaux, d'alerter sur la déforestation alors que là-bas sur place, ces populations n'ont parfois pas le choix, pour dire les choses, rien à manger.
Oui, tout à fait, mais nous aussi on a un rôle à jouer. Je vous donne un exemple. Très clairement, c'est dit dans le film qu'il faut manger moins de viande. Hein. Et si on en mange, c'est de la viande locale, bio, pourquoi ? Parce que si elle n'est pas bio et locale, elle est nourrie avec du soja qui vient d'Argentine ou du Brésil. Et moi, j'ai filmé ça dans des films avant. Hein. Donc ça veut dire qu'on contribue au dérèglement climatique, à la déforestation, parce que pour faire ces immenses monocultures de soja, ben, on déforeste. Et donc, c'est pas bon pour le climat, c'est pas bon pour la biodiversité, c'est pas bon pour la santé. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le concept de déforestation importée. C'est-à-dire que chaque acte quotidien de consommation, il faut se poser la question. Ça vient d'où et quel impact j'ai ? Vous voyez, on est tous interconnectés. En fait, c'est ça que dit le film.
Il y a un point aveugle dans votre reportage, vous ne parlez pas de la surnatalité. Vous le dites, Madagascar compte 27 millions d'habitants. J'ai regardé, en 2000, ils étaient 17 millions. C'est-à-dire que Madagascar a presque doublé de population en 30 ans. C'est comme si en France, nous étions plus de 100 millions. Je vais prendre l'Afrique en général. Dans les années 50-60, la population était de 250 millions. 640 millions dans les années 90 et aujourd'hui il y a 1,4 milliard d'habitants en Afrique. 1,4 milliard. Est-ce que la surnatalité n'est pas
Alors,
un sujet
tabou ? Cette question, les scientifiques en parlent très bien aussi. Hein. Le problème, c'est la pauvreté. Hein. Vous savez, dans nos pays, on a commencé à faire moins d'enfants quand on a eu le droit à un certain type de développement, le droit à l'éducation, la santé.
On a aussi fait moins d'enfants avec l'invention de la pilule qui n'existait pas au XVIIe siècle.
Oui, mais n'empêche qu'on a contrôlé notre fertilité beaucoup plus facilement, et ça, les études sont très claires là-dessus. D'ailleurs, en Asie, la population, le taux de fertilité est en train de s'effondrer. Hein. Mm-hmm. Donc, le problème, c'est la pauvreté. c'est les inégalités qui creusent ça, ces écarts et qui font que dans des pays comme Madagascar, où moi j'étais très touchée par ce pays, c'est un pays de, vraiment d'une extrême pauvreté qui, a vraiment, qui se prend tout sur la figure, quoi, le dérèglement climatique.
Mais ce que vous dites est terrifiant, parce que c'est un cercle vicieux. Plus ils sont pauvres, moins il y a le contrôle des naissances, oui. Donc plus il y a de naissances et donc plus ils sont pauvres,
voilà.
Puisque la richesse ne peut pas augmenter.
Sauf qu'on peut aussi se dire qu'il faut lutter contre les inégalités qui sont quand même assez extraordinaires dans le monde et de plus en plus importantes.
On est bien d'accord. Comme toujours, vous présentez ce documentaire un peu partout en France. Quels ont été les retours ?
Alors, la première en première était à l'UNESCO. Il y avait 1300 personnes. Ça s'est vraiment super bien passé. On a refusé plein de monde. Et depuis, je suis sur les routes tous les jours. Les gens sont très touchés par le film parce qu'à la fois, on découvre que c'est beau la biodiversité. On a mis beaucoup de moyens pour bien la filmer. Deux caméramans, enfin, c'est très rare pour des documentaires. Hein. Un droniste qui a inventé un petit drone pour rentrer dans les forêts. Et de l'autre, ils comprennent que c'est pas, vous l'avez dit en introduction, ce n'est pas une fatalité. Mais attention, si on ne s'attaque pas aux causes, on peut avoir d'autres pandémies, et bien plus dangereuses que celle-ci. Parce que vous avez vu dans le film, toutes les maladies que je présente, elles tuent entre 30 et 90% des gens. C'est beaucoup, beaucoup plus important que la Covid-19. Donc, le film a beaucoup de, touche beaucoup les gens qui pleurent dans la salle. Hein, et qui, pour le livre, j'avais aussi beaucoup de témoignages des gens qui me disaient merci, parce que ça remet de la cohérence dans le monde dans lequel nous vivons.
Je vais dire comme eux, je vais dire merci. Merci Marie-Monique Robin, La Fabrique des Pandémies avec Juliette Binoche. C'est dimanche soir à 22h45 sur Ushuaïa TV. Il y a évidemment le replay. Et le livre qui était en édition premium, qui s'est vendu à 60 000 exemplaires, c'est un sujet pas facile. Vendre autant de livres, ça augure de la qualité du livre. Je dis ça augure parce que je ne l'ai pas lu, je ne vais pas vous mentir. Quand je lis un livre, je le dis. Quand je ne l'ai pas lu, je... Et il sort en poche chez Pocket, c'est bien ça.
Il est déjà sorti, déjà en janvier, voilà.
Merci d'avoir été avec nous, Marie-Monique Robin. Dans un instant, on parlait de la série d'animation satirique Les Cassos sur Canal. C'est des personnages de la culture populaire tels que Casimir ou Barbie qui sont amenés à rencontrer une assistante sociale. C'est ça, les Cassos, les cas sociaux. On sera avec le réalisateur Gaspard Sumer et la scénariste Camille Fievez. À tout de suite sur Europe 1.
Philippe Vandel.
Culture Média.
Sur Europe 1.